Chapitre 6. Loup dans la bergerie. Du ciel, bien contre son gré, Marcette dut retomber sur la terre. Elle revit à son chevet Madame Perrault-Campillon, qui ne lui parla plus de l'infirmerie, mais qui lui exposa combien sa sotte escapade avait douloureusement impressionné toutes ces dames. Nous nous serions attendus à plus de bon sens de votre part, Marcette. Sortir sans souliers, voilà une idée bizarre. Si vous désiriez prendre l'air, il fallait m'avertir. » Car dès le premier instant, on avait établi cette fiction pleine de convenances, que Marcette avait essayé de sortir seule pour respirer l'air, et Mademoiselle Laurentine ne dit mot du petit paquet d'argent posé au bord de la commode. Flore pleura beaucoup. Depuis leur catastrophe financière, elle était fort affadie et fondait en larmes au moindre prétexte, ce qui obligeait Laurentine, par contraste, à dominer ses émotions et à se comporter comme une statue coulée en bronze. Le ménage se soutenait tant bien que mal avec les deux petites bonnes novices et leurs cahiers de recettes. On faisait des expériences d'où sortait parfois un plat complètement inattendu. « J'ai commandé un poulet rôti, » disait Mademoiselle Laurentine. « Mais il se pourrait fort bien qu'à la dernière minute, le poulet se trouve être une omelette. » Ô salutaire hygiène du travail et de la nécessité, on riait bien plus qu'autrefois chez les sœurs Bain-Rose et l'on se picotait moins. On était dans la réalité jusqu'au cou. Le plan de régénération sociale, par l'influence du rossignol et du criminel repentant, pouvait attendre, car il fallait compter les serviettes rentrant de la lessive. La lecture du journal, le jeu de patience, n'était plus la tentative languissante et désœuvrée que l'on fait pour tuer ce qui reste du jour, une fade distraction succédant à l'écœurante oisiveté. C'était le délassement savoureux qu'on a gagné. Mademoiselle Laurentine se découvrait des aptitudes administratives. Elle éprouvait des joies ineffables au bout du mois quand ses comptes se balançaient avec élégance. Et s'il manquait à son ménage quelques sensiles ou quelques accessoires à leur toilette, les deux sœurs apprenaient à connaître le plaisir exquis qu'il y a à ne pas se l'accorder, mais à l'espérer pour plus tard. Chacun dans le village les trouvait rajeunis et moins égoïstes. Leur docilité touchante à recevoir les conseils leur gagna tous les cœurs. Dans les réunions d'intérêt général, on pouvait désormais citer les sœurs Bain-Rose comme une illustration des bienfaits de l'adversité. Par bonheur, le pensionnaire de ces dames, M. Ali Loulibé, était d'un caractère facile et d'un grand appétit qui aiguisait encore de longues promenades, toujours commencées dans la direction de l'ouest. Avant la fin de l'été, d'ailleurs, Marcette se trouva assez rétablie pour descendre à la cuisine et y passer ses journées, assise dans un grand fauteuil d'osier près de la fenêtre. Les mains croisées sur ses genoux, la vieille femme suivait du regard chaque mouvement de ses aides de camp, vérifiait tous les achats et goûtait toutes les sauces. Son esprit parcourait la maison du haut en bas, s'introduisant dans les armoires pour compter le linge empilé. Et par un don qui ressemblait à la seconde vue, Marcette savait toujours quelle chambre à coucher avait besoin d'être écurée la première. Cependant, elle s'imaginait n'être bonne à rien et déplorait du matin au soir son inutilité. Son caractère, autrefois égal et son habitude silencieuse, s'étaient changés en une humeur plaintive qui s'épanchait avec monotonie, et chacun dans le village répétait, avec des hochements de tête, combien cette pauvre Marcette devenait fatigante. Chacun, sauf Laurentine. « Marcette nous a supportés assez longtemps, disait-elle à sa sœur. Il est juste que nous la supportions à notre tour. Pendant 40 ans, nous avons été des bébés déraisonnables. » « Parle pour toi, » faisait Flore un peu boudeuse. « Il est de fait que tu dois bien regretter tes manies et je me demande comment, sans toi, s'opérera la propagation du rossignol dans l'Europe centrale. » Mais Laurentine ne faisait que sourire à ce discours qui ne touchait plus en elle aucune corde sensible et bien vite, elle descendait à la cuisine pour consulter Marcette sur le menu du lendemain. « Ah, ma petite !» gémissait la vieille bonne. « Vous voilà toujours à courir dans les escaliers. Vous aurez usé vos jambes avant que la faim vienne. Comme moi. Et c'est triste, allez, de n'avoir plus de jambes. Votre simplet, comment va-t-il aujourd'hui ? Poursuivait-elle avec une grimace moqueuse qui lui ridait tout le visage, tandis que de l'œil, elle comptait les œufs que la sous-cuisinière cassait dans le bol. « Chut, chut, Marcette ! Monsieur Loulibé est l'homme de la maison !» Le curateur du pauvre être doux et un peu maniaque avait stipulé, par surcroît du vivre et du couvert, certains soins éducatifs et, si possible, la pratique d'un art d'agrément. Le prix de ces soins avait d'abord paru fantastique aux deux sœurs et il avait fallu leur exposer que le pensionnaire commis à leur charge nageait dans l'abondance d'un revenu si disproportionné avec ses facultés de dépense qu'il risquait d'en être complètement submergé. Alors la conscience de Mademoiselle Laurentine s'apaisa et les deux sœurs convinrent, si leur bénéfice au bout de l'an semblait par trop considérable, d'envoyer aux missions une belle offrande de la part de Monsieur Ali. On assigna naturellement à ce précieux commensal la chambre la plus vaste et la plus gaie de la maison. On organisa des parties de croquet pour le distraire et Mademoiselle Flore reprit le piano à son intention. Monsieur Ali Loulibé, malgré son nom de pacha terrible, était aimable et pacifique. Il avait 28 ans quand sa destinée enfin pitoyable le jeta dans le giron des demoiselles Bainrose. Jusqu'alors et presque sans s'en douter, il avait été malheureux. Trimballé d'un précepteur sévère à une institution spéciale pour enfants retardés, ballotté de sa nourrice qu'il recueillait dans les interrègnes à un docteur fin de siècle qui le tortura de suggestions et d'hypnotisme, bousculé de la campagne au bain de mer et de la gymnastique suédoise au régime du lait, il avait traversé l'existence dans un brouillard d'ahurissement. Un beau jour, on le gonflait d'oxygène. Le lendemain, on l'exposait au soleil de midi sur un pré. On disait devant lui « Il manque de vitalité, il manque de phosphate, il manque de matière grise. » L'huile de foie de morue était son régal journalier et l'on inventa pour lui des méthodes extraordinairement compliquées d'apprendre à lire et à écrire. Long et mince, penché comme un mât de navire, les yeux d'un bleu pâle et brumeux, les cheveux incolores, les dents blanches, mais d'une poussée irrégulière, inachevée, qui indiquait l'affaiblissement de race, et l'air inquiet, presque furtif, d'un être qui n'a jamais fait sa volonté qu'en cachette, tel était Ali Loulibé, dont le nom déjà portait au rire, et qui n'avait d'autre titre à la considération de son prochain qu'une grosse fortune dont il ne saurait jamais que faire. Naïvement et d'un cœur débonnaire, il avait cherché l'amitié parmi les jeunes gens de son âge. Mais des railleries qu'il sentait sans les comprendre, ou d'effrontés appels à sa bourse, de grosses flatteries, des mystifications faciles, répondirent le plus souvent à ses avances. Il en éprouvait un malaise qui lui tenait lieu de perspicacité, et, averti par cet instinct, il se retirait. Ses petites manies toujours contrariées rentraient sous la peau et menaçaient de tourner en méchanceté. Déjà son curateur le trouvait moins docile. Deux ou trois explosions de colère, aussi courtes qu'imprévues, furent accueillies avec horreur, comme les manifestations d'un caractère épouvantable. Et quand le précepteur en charge, un homme très savant, découvrit que son élève n'apprendrait jamais le grec, on assembla un conseil de famille dont l'un des membres recommanda grandement la pension champêtre des demoiselles Bainrose. Le pauvre esquif d'Ali Loulibé trouvait enfin son port. Un premier jour de défiance, un second jour de sauvagerie, un troisième de réserve et d'expectative, et puis, enfin, l'épanouissement complet, l'abandon, la confiance sans borne. Mademoiselle Flore devint l'amie qu'Ali cherchait depuis qu'il était au monde. Il ne fit plus un pas sans l'en informer. Au bout de la première quinzaine, il informa, sous le sceau du secret, de l'intention qu'il avait conçue de se marier, aussitôt qu'il se serait rendu maître des participes. « Ce ne sera pas aussitôt, dans ce cas, » dit Flore à Laurentine, qu'elle mit dans la confidence pour porter à deux une si grosse responsabilité, car son cerveau est absolument réfractaire aux règles de la grammaire. « Tant mieux, » dit Laurentine, « sa famille nous blâmerait fortement s'il concevait sous notre toit des pensées de mariage. Surveillons ses intimités et n'admettons chez nous aucune dame comme pensionnaire. » Nous voilà loin des principes du village, remarqua Flore, qui ne put s'empêcher de rire. Presque inconsciemment, ces deux vieilles filles à l'âme maternelle se mirent à choyer leur hôte, à le pouponner tendrement. Mais, en présence des étrangers, elles le traitaient avec déférence. Il était l'homme de la maison, comme l'avait dit mademoiselle Laurentine. Sensible à cette considération, plus encore qu'à leur gâterie, et fière d'une importance nouvelle, Ali Loulibé marchait d'un pas plus assuré, se mêlait à la conversation générale et se constitua le protecteur de tout le village. L'hiver approchait, les longues soirées sociables, les lampes allumées, la corbeille à ouvrage et les livres qu'on lit en commun, comme un aimant, rassemblèrent ces dames. Chacune reprit son jour. Les demoiselles Bain-Rose donnèrent un grand thé. Madame Perrault-Campillon fit de même, et mademoiselle Alexandrine Jacquet, pour n'avoir pas l'air d'imiter sottement les autres, invita 12 personnes à souper. Jamais on n'avait été aussi mondain dans le béguinage. Mademoiselle Alise fit rafraîchir sa robe de satin prune pour une soirée chez madame Vieux-Girard, où Marie-Louise, qui atteignait ses 17 ans, fut solennellement présentée en qualité de jeune personne. Il y eut des tableaux vivants très applaudis. Mademoiselle Kegelbaum, vêtue de rose étain et les yeux douloureusement perdus dans la fumée d'une urne qu'elle tenait sur ses genoux, représentait le passé. Marie-Louise en bleu, les mains pleines de fleurs fraîches, était le plus joli présent qu'on pût souhaiter. Et le fils du boulanger, sur une roue, éperdument tendu et comme envolé dans une pose frémissante, symbolisait l'avenir. M. Ali Loulibé offrit des roses de Nice et du lilas blanc à toutes les dames, et Paulette se conduisit avec une parfaite convenance. La raison qui m'a fait hésiter jusqu'ici a révélé le nom du fils du boulanger, du photographe amateur dont le Kodak opéra chez Marie-Louise une guérison merveilleuse, c'est que ce nom trop connu a joui d'une popularité fort grande et qu'il remplissait il y a 2 ans les journaux sportifs d'Amérique et d'Australie, sans parler de la presse européenne, où ressentirent quelques échos d'une renommée acquise dans les grands championnats de San Francisco et de Melbourne. Mais le champion du monde est redevenu l'obscur fils d'un boulanger de campagne qui ne fait du pain frais que 2 fois par semaine. Il rassemble avec mélancolie les débris de sa vigueur pour s'en faire une santé passable. Il a mis ses économies à la banque et son avion dans un hangar. Il se distingue de sa génération en se promenant à pied et il s'appelle Sylvain Fournier, nom honnête, tout parfumé des senteurs du pain chaud, de la bonne forêt, du village, nom auquel les sportsmen curieux devront faire subir une transposition avant de le reconnaître. Sylvain Fournier cherche une vocation. Il soupçonne que l'inactivité trop prolongée de sa convalescence, une convalescence 1 an et demi, une longue flânerie que le Kodak couvre d'un voile insuffisant, il soupçonne que son incertitude est jugée défavorablement par les dames du village. Il fait des projets, la vie rustique l'attire. Il visite des domaines à vendre et surtout, il cherche des conseils auprès de Paulette et de Marie-Louise. L'occasion lui en est fréquemment offerte, car de peur que M. Ali Loulibé ne s'ennuyât dans une société exclusivement féminine, on l'a présenté à Sylvain Fournier et l'on n'invite plus l'un sans l'autre. Bizarrement, ils se sont pris de sympathie mutuelle, car le fils du boulanger a dans son cœur un coin de pitié tendre à l'égard de tout ce qui est faible. Cette compassion, point dédaigneuse mais secourable, Ali Loulibé la devine et s'y confie. Ils font côte à côte de longues promenades. Ali parle tout le temps en petites phrases saccadées. Sylvain se tait. Il admire les effets de neige, il pense à sa ferme future et à la délicieuse fermière qu'il voudrait bien y amener. Il soupire, s'énumérant à lui-même les désavantages de sa personne et de sa position. Il ne sait à quelle puissance s'adresser. Il craint de provoquer trop tôt un refus cruel qui le plongera dans le désespoir. « Ne pensez-vous pas, » dit Ali Loulibé, somptueusement enveloppé d'un long manteau que garnit une fourrure précieuse, « ne pensez-vous pas que mon devoir serait d'entreprendre une œuvre ? J'étudie bien les participes avec mademoiselle Flore chaque matin, mais cela ne saurait me suffire. Je désire entreprendre une œuvre. répète-t-il avec persistance. « Quelle œuvre, mon cher ami ?» demanda Sylvain distraitement. « Une œuvre utile à la science, une statistique, par exemple. J'ai songé, poursuivit-il mystérieusement, en s'arrêtant dans le sentier que bordent à droite et à gauche des amas de neige, j'ai songé à une statistique de la longueur des cils. C'est un travail qui n'a pas encore été fait, que je sache. » « Les cils, la longueur des cils, » répéta Sylvain et Bobby. Cela présenterait quelque intérêt, me semble-t-il. Je remarque, car j'ai un grand don d'observation, que les cils varient de longueur suivant les personnes. Je porterai dans ma poche une petite mesure divisée en millimètres et un carnet avec un crayon pour mes notes. Ces dames ne refuseraient pas de se prêter à mes observations quand elles sauraient que c'est pour la science. J'enverrai mes notations à un journal avec des calculs. Combien, par exemple, il faudrait de cils pour faire un kilomètre? Donnez-moi votre avis, monsieur Fournier, vous qui êtes un homme célèbre. » Coralie était très fière d'être liée avec un homme célèbre. « Mais, répondit Sylvain avec quelque embarras, l'idée me paraît originale. N'est-ce pas? Cela m'est venu tout seul, un jour où je m'étais un peu surmené avec les participes. Je me disais, les participes, c'est très bien, mais c'est égoïste. Quand je les saurai, le monde n'en ira pas mieux. C'est une œuvre vraiment utile que je voudrais entreprendre. Où pensez-vous que je puisse me procurer une petite règle en métal, très exactement divisée en millimètres ? Dans un magasin d'outils d'horlogerie, sans aucun doute, fit Sylvain en s'ébouriffant la moustache pour cacher un sourire. Je la ferai faire en or, conclut Ali Loulibé, à cause des yeux délicats. Le laiton est malsain. On les attendait pour prendre le thé chez Madame Perrault-Campillon, dont c'était le jour. Ils arrivèrent les premiers, et à chaque personne qui entrait, Ali ne pouvait s'empêcher de souffler en confidence. « J'ai de grands projets, vous verrez, une statistique. » Il considéra Mademoiselle Kegelbaum pendant quelques minutes avec une fixité qui fit rougir cette personne modeste et sensible et, par surcroît, sujette à des accès de susceptibilité. « Qu'est-ce que j'ai donc? Mon col est-il dégrafé ou ma coiffure en désordre ?» se demanda-t-elle avec inquiétude, changeant de place afin de jeter en passant un coup d'œil au miroir. « Parce que je suis pauvre, chacun se croit le droit de me manquer d'égard. Si j'étais raisonnable, je n'accepterais plus aucune invitation, n'étant pas en mesure de les rendre. » Les cils de Mademoiselle Kegelbaum, chuchotés Ali à l'oreille de Sylvain, me paraissent sans contredit les plus longs de toute la société. Je les estime à 1,5 cm. Il me tarde d'avoir mes instruments. » Sous l'empire d'une fascination extraordinaire, il suivit Mademoiselle Kegelbaum dans le coin où elle s'était réfugiée et l'entretint avec persévérance, les yeux rivés sur son visage, si bien que la pauvre fille, à la fin, se sentit défaillir de malaise et de timidité. On allait croire qu'elle retenait ce jeune homme dans ses réseaux. Déjà, Mademoiselle Flore dirigeait vers elle des regards étonnés. « Vous avez vraiment, » fit Ali à demi-voix, « les plus longs cils que j'ai jamais vus. » Aussitôt, elle baissa les yeux, ce qui rendit plus apparente la longue frange blonde de ses paupières. « Et quelle nuance remarquable, exactement celle de vos cheveux, » poursuivit Ali. « Vous appelez cela blond cendré, blond paille, blond. Comment désignez-vous ce blond? C'est pour mes notes, vous comprenez ?»« Pour l'amour du ciel, monsieur Loulibé !» murmura Mademoiselle Kegelbaum, qui ne pouvait plus reculer puisqu'elle était assise dans un coin. « Ne me regardez pas de si près !» Bien qu'elle eût dépassé la trentaine, elle avait conservé un teint délicat où toutes les impressions passaient comme des nuages roses. Son corsage de satin noir emprisonnait une taille rondelette, un œillet rose fleurissait sa ceinture. Ses petites mains potelées jouaient nerveusement avec un crochet d'ivoire. Mademoiselle Kegelbaum était pauvre. Une petite rente lui permettait de nouer tout juste les deux bouts et quelques leçons d'allemand lui fournissaient un superflu précaire. Trop sensible et trop timide pour chercher sa pitance dans le vaste monde, elle s'était réfugiée dans ce béguinage après la mort de son père, pasteur d'une petite congrégation allemande en pays roman. Les dames du village la traitaient en fillette sans importance et l'abreuvaient de bons avis dont elle n'avait que faire. Car Adélaïde Kegelbaum, sous sa sensibilité de myosotis et dans ses effervescences poétiques, gardait le sens très positif de sa race, avec une aptitude remarquable à tirer le meilleur parti de tout. Son home, fort resserré, consistait en une seule chambre que lui louait Mademoiselle Alexandrine dans son cottage. Aussi ne pouvait-elle aspirer à aucune réception chez elle. Des taquineries affectueuses, de petits cadeaux accompagnés de condescendance étaient son lot quotidien dont elle n'eût pas osé se plaindre. On affectait de la considérer comme une emballée dont il fallait réfréner les enthousiasmes, comme une affamée de sacrifices qui se fût dévouée à tort et à travers si l'on y eût mis le holà. Chacun se mêlait des affaires de Mademoiselle Kegelbaum. Madame Perrault-Campillon, celle de ces dames qui avait le moins de tact, se permettait même de lui corriger son accent. Au printemps, quand elle plantait sa bordure de myosotis, on lui conseillait d'y mettre plutôt des violettes. Si elle s'arrangeait un chapeau, Mademoiselle Alise le trouvait un peu trop jeune et Madame Lénier-Nicole un peu trop âgée. Elle ne disait rien, très humble, un peu lente à s'exprimer, mais en elle-même, un petit orgueil se rebiffait, sifflant parfois comme un serpent. « Qu'est-ce que vous complotez dans ce coin, vous deux ?» fit Madame Perrault-Campillon de sa voix aux intonations de flûte. « Notre bonne Kegelbaum vous raconte-t-elle, Monsieur Loulibet, combien de souris elle a vu courir ce matin ?» Car la chambre de Mademoiselle Kegelbaum avait été le théâtre d'une invasion de souris et chacune de ces dames avait recommandé un modèle spécial de trappe sur quoi Adélaïde emprunta pour quelques nuits la meilleure trappe qu'on ait encore inventée à Frumensette, sa chatte Alphonsine. Mais il lui déplaisait fort qu'on fît de cette épreuve tout intime un sujet de conversation dans une réunion de thé élégante où les deux sexes étaient représentés. C'était toujours ainsi. Il semblait que sa vie privée appartint à tout le monde. « Vous avez peur des souris ?» lui demanda Ali, plein de sympathie. « Je n'en ai pas peur, mais je les trouve fort désagréables. »« C'est comme moi. Vous aimez les fleurs ?» poursuivit-il en indiquant l'œillet qu'elle portait à sa ceinture. « Beaucoup. J'en ai tout l'hiver sur ma fenêtre. Ma plante d'œillet fleurit continuellement. »« C'est comme moi. J'aime aussi beaucoup les fleurs. Aimez-vous le thé ? Il me paraît qu'on vous oublie. » « Oh non, on me sert toujours la dernière, » fit-elle avec une petite note plaintive, « parce que je suis la plus... » Elle allait dire la plus pauvre, mais elle se reprit. « La plus jeune. »« Pas possible !» s'écria Ali d'un air de vif intérêt. « Vous êtes la plus jeune ?»« Sauf, bien entendu, Paulette et Marie-Louise. » « Je sais, » reprit-il après un moment de silence et d'un ton bas plein de conviction, « je sais qu'il serait très impoli de demander son âge à une dame. »« Oh, je ne fais pas le moindre mystère du mien. J'ai 35 ans. »« Il faut que chacun y passe, » dit-il gravement résigné. « Permettez-moi d'aller vous chercher votre tasse de thé. Fort ou faible ?»« Cela m'est égal, je ne suis pas difficile. »« Quel beau caractère !» dit Ali en hochant la tête. « Du reste, chacun le dit dans le village que vous avez un beau caractère. Moi, au contraire, je suis très exigeant. Si l'on m'offrait du thé faible, je ferais une scène, je ne le boirais pas. » Elle sourit, suivant des yeux sa démarche incertaine parmi les groupes. Elle songeait, il a l'esprit du cœur. Quand il revint, il portait deux tasses qu'il plaça sur la petite table gigogne, couverte d'un délicat napperon brodé. « Nous ferons notre dînette ensemble, » dit-il en riant. Il se recueillit pendant quelques minutes. « Mademoiselle Kegelbaum, » commença-t-il enfin, « je vais requérir de vous une grande faveur. »« Laquelle ?» dit la bonne fille, croyant qu'il allait lui demander une bouture de ses œillets. « Me permettez-vous, quand j'aurai mes instruments, de mesurer la longueur de vos cils, je voudrais commencer par eux ma statistique. » Ils sont remarquables, très remarquables. Je les estime approximativement à 1,5 cm. Ont-ils déjà été mesurés ? Jamais, jamais, murmura-t-elle effarée. C'est bien ce que je pensais. L'idée de cette statistique est absolument neuve. Monsieur Loulibet, fit Adélaïde charitablement, je ne sais si je vous comprends bien, mais la pensée de mesurer les cils des dames ne doit point vous venir. Cela ne serait pas convenable. Elles ne vous le permettront point. C'est que, fit-il plonger d'un coup dans le désappointement le plus amer, si je ne mesure que les cils des messieurs, ma statistique sera très incomplète. Réfléchissez-y un peu, mademoiselle Kegelbaum. Quant à moi, c'est tout réfléchi, monsieur Loulibet. Quel dommage! Vous eussiez été le plus beau numéro de ma statistique. Mais est-il bien nécessaire, fit-elle dans le désir de l'obliger, que vous preniez cette mesure vous-même? Il tressaillit, une lueur le transperçait. Pas le moins du monde, s'écria-t-il. Au contraire. Ah, mademoiselle Kegelbaum, quelle bonne idée! Vous sauvez ma statistique. Puis il ajouta, baissant la voix et avec hésitation, vous chargeriez-vous de mesurer ces dames quand j'aurai mes instruments? Elle entrevit en une seconde l'abîme de ridicule où elle allait plonger. Elle eut le pressentiment, et comme la piqûre déjà, des railleries qui, semblables à un vol de guêpes, allaient darder de toutes parts. Mais son âme tendre n'avait jamais su résister à des yeux suppliants. Elle sourit donc et répondit « Si cela peut vous faire plaisir ?» Alors, le cœur d'Ali Loulibet eut pour la première fois un tressaillement passionné. Son enveloppe racornie depuis des semaines, fondée comme cire à la chaleur tiède de la sympathie, mais le sourire d'Adélaïde fut un rayon, une flamme, qui ressuscita la pauvre chrysalide intérieure à moitié morte, la fit palpiter, lui ouvrit les ailes. Ali sourit à son tour, d'un visage tout éclairé. Il murmura d'une voix frémissante « Oh, que la vie serait belle avec vous !» Madame Perrot-Campillon fondait sur eux l'assiette de petits gâteaux dans les mains. « Un petit pain d'anis, ma bonne amie. Vous ne vous répandez pas assez, laissez-moi vous faire ce reproche. Dans une réunion comme celle-ci, il faut se répandre plutôt que s'accaparer mutuellement. » Confuse, mademoiselle Kegelbaum se leva. Mais son embarras devint mortel quand elle vit Ali la suivre fidèlement dans tous ses méandres à travers le salon, s'asseoir quand elle s'asseyait et chercher sans cesse à renouer un entretien confidentiel. Elle errait comme en un rêve, son trouble devenait apparent. « Avez-vous mal à la tête, mademoiselle Kegelbaum ?» demanda Paulette, lui attrapant la main au passage. « Venez donc un peu nous chaperonner par ici. » Car Paulette s'était blottie avec Marie-Louise dans une petite encoignure que formait le grand paravent de soie violette. Et serrées l'une contre l'autre, comme deux cailles dans les blés, elles attendaient le chasseur. Ce grand timide chasseur, ce grand indécis, Sylvain Fournier, les guettait depuis un quart d'heure et ne s'approchait point. « À présent, nous avons un chaperon, » fit Paulette à haute voix. « Asseyez-vous dans ce fauteuil, mademoiselle Kegelbaum, bien en vue. » C'est drôle comme on se cristallise dans le salon de Madame Perrot-Campillon. Les gens restent figés à leur place. Marie-Louise était fraîche comme une églantine, dans une blouse de taffetas à raies roses et blanches, mais elle semblait inquiète, déçue. Elle ne disait pas grand-chose. « Je vais proposer le jeu qu'on appelle changement général, » poursuivit Paulette de la même voix distincte. « Ou bien les quatre coins. Voyez-vous cela ?» Ce salon violet changé en une arène où l'on jouerait aux quatre coins. Sylvain Fournier causait politique avec mademoiselle Alice, mais il y avait de telles lacunes dans sa conversation qu'à la fin, la vieille demoiselle s'impatienta. « Si les grandes questions du jour ne vous intéressent pas, dit-elle, allez causer d'enfantillage avec nos petites là-bas. » Et, pétulante comme une mésange, elle s'envola vers un autre groupe. « Les blocs se désagrègent !» fit Paulette, saluant l'approche de Sylvain d'un sourire moqueur. « Pauvres enfants, pauvres petits enfants, jeunes et vieux, jouant à cache-cache dans cette obscurité où s'écoulent nos vies, et tressaillant quand, au hasard des rencontres, un cœur avait frôlé un autre cœur. Mademoiselle Kegelbaum ne sortait point de sa rêverie, Ali restait muet comme une ombre, des pensées confuses se croisaient. et ces cinq-là, tout à coup réunis à l'abri du paravent violet, se sentaient plus isolés, plus tendres, plus vulnérables et plus malheureux qu'ils ne l'avaient jamais été. Marie-Louise poussa un léger soupir, se décida à lever les yeux. Sylvain la regardait. « Il la regarde, se disait Paulette, comme s'il voulait la boire et la manger. Que ne parle-t-il, ô ciel, que ne parle-t-il ? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, monsieur Fournier, dit-elle d'un ton sévère. Tâchez donc que la conversation s'anime un peu. » « Il est vrai, dit Ali lugubrement, qu'une tristesse est tombée sur nous. J'étais gaie, moi, tout à l'heure. » « Un ange a dû passer, fit doucement mademoiselle Kegelbaum. Quand chacun se tait tout à coup, c'est qu'un ange a passé. » « L'ange, c'est vous, déclara Ali sans détour. » Tandis que les yeux de Sylvain disaient clairement à Marie-Louise « L'ange, c'est vous, il n'y en a pas d'autre. » « Et moi, songeait Paulette avec mélancolie, je ne suis donc l'ange de personne, sinon de ce pauvre Aris qui m'attend debout sur la rive africaine. Pauvre ami, je l'oubliais un peu. » Le temps s'écoulait et il ne s'en apercevait point, tout silencieux, transi dans des pensées de crainte et d'espoir. Mademoiselle Kegelbaum rassemblait son courage pour se faire bien dure et bien piquante, et tout ce qu'elle sut dire fut enfin, avec son léger accent tudesque que l'émotion rendait plus incertain, « Ah, un triste hanche !» Et puis, plus rien. Il fallut se séparer et s'en aller à droite, à gauche, tous les cinq, comme de déplorables épaves.